Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur la foi avec une étude sur la foi et le baptême. Notre dernière étude a défini la sorte de foi qui peut sauver l'homme du péché. Ayant vu, en effet, que même les démons ont une sorte de foi, sans pour autant être agréable à Dieu, il nous était évident que la foi que Dieu cherche en nous ne s'arrête pas au niveau d'une conviction purement intellectuelle. Comme Paul dit aux Galates, la foi doit être agissante par l'amour. Nous avons reconnu que la foi doit s'exprimer par la confession, c'est-à-dire nous devons reconnaître devant les hommes que nous croyons en Jésus. Car si nous avons honte de lui devant les gens, il aura honte de nous devant le Père Céleste. Nous avons également reconnu que la repentance est nécessaire. On ne peut guère demander à Dieu de nous pardonner les péchés qui l'offensent tellement, mais dont nous ne voulons pas nous détourner. Il n'est pas difficile de comprendre la logique de Dieu en ce qui concerne la confession de foi et la repentance. Bien que certaines personnes ayant des idées théologiques particulières à défendre puissent rejeter la nécessité de confesser sa foi ou de se repentir, la plupart de croyants trouvent qu'il est normal que Dieu nous demande de faire ces choses si nous croyons réellement. Mais à la fin de notre dernière étude, nous avons introduit une autre condition biblique qu'il faut remplir pour que la foi soit capable de nous sauver. Il s'agit du baptême. Alors là, beaucoup ont du mal à voir un lien logique entre le fait de se laisser plonger dans l'eau et la réception du pardon de Dieu. Il serait peut-être utile de constater qu'il y a au moins deux sortes de commandements de Dieu. Il y en a que l'on appelle parfois des commandements moraux. Il se rapporte à ce qui est juste par la nature des choses, ce qui est toujours juste, ce qu'il faut faire parce que la justice elle-même le demande. Les commandements de ne pas mentir, de ne pas dérober, de ne pas commettre le meurtre, de respecter son père et sa mère, et d'adorer Dieu seul sont des commandements moraux. Même si nous n'arrivons pas toujours à vivre selon ces principes, nous savons en nous-mêmes que nous avons mal fait quand nous n'agissons pas ainsi. Mais il y a une autre sorte de commandement, des choses que l'on doit faire tout simplement parce que l'autorité divine les a ordonnées. C'est justement parce que l'on ne voit ni l'utilité, ni la nécessité morale ou pratique de la chose ordonnée que l'obéissance à ce genre de commandement est la meilleure preuve de notre foi et notre amour pour Dieu, notre confiance en ce qu'il dit et notre soumission à l'égard de ses ordres. Nous voyons ce genre de commandement tout au long de la Bible. Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait, ce n'était pas un commandement moral. Mais en y obéissant, Abraham a démontré sa foi. Quand Dieu lui dit plus tard de sacrifier son fils Isaac sur un autel, ce n'était pas un commandement moral, au contraire, le commandement semblait être en violation de la justice. Y obéir exigeait une confiance totale à Dieu, une confiance pour laquelle Abraham est honoré jusqu'à nos jours. Lorsque Dieu dit aux Israélites de sacrifier un agneau et d'en mettre le sang sur la porte de leur maison en Égypte, pour que leur premier-né ne soit pas frappé de mort comme ceux des Égyptiens, ce n'était pas un commandement moral. Dieu aurait pu demander autre chose pour que les Israélites identifient leur maison. Il aurait pu accepter n'importe quel sang, au lieu de préciser le sang d'un agneau sans défaut. Dieu avait certainement ses raisons pour ce qu'il a ordonné, mais il n'a pas choisi révéler ses raisons aux Israélites. Quant à eux, ils n'avaient qu'à obéir sans question. Le commandement à Adam et Ève de ne pas manger d'un certain arbre, le commandement à Josué de faire le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, le commandement à Naaman de se laver 7 fois dans le Jourdain, dans tous ces cas et bien d'autres, il fallait obéir tout simplement par respect pour l'autorité de Dieu. Le baptême est sans doute un commandement du même genre. C'est ainsi que nous démontrons notre foi, notre amour, notre confiance, notre soumission envers Dieu, quand nous nous faisons baptiser conformément à la parole de Christ. Le Seigneur aurait pu établir une condition différente à remplir, ou bien aucune autre condition en plus de la foi, la confession et la repentance que nous avons déjà citées. Mais il a bien ordonné le baptême. D'après l'évangile de Marc, Jésus lui-même associe foi et baptême comme condition du salut. Lorsqu'il confie à ses disciples la mission d'évangéliser le monde, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, versets 15 et 16. Pour être condamné, il suffit de ne pas croire. D'ailleurs, si vous ne croyez pas, normalement, vous ne chercherez pas à vous faire baptiser. Par contre, pour être sauvé, vous devez, selon Jésus, non seulement croire, mais être baptisé aussi. Si nous comprenons ceci, nous ne serons point étonnés de constater tout au long du livre des Actes que ceux qui avaient vraiment cru à l'Évangile sont passés directement au baptême, sans qu'on leur impose une période d'attente. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus. À ceux qui ont indiqué leur foi en demandant ce qu'ils devaient faire, Pierre dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Acte 2, verset 38. Le verset 41 du même chapitre nous informe que « ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire qui crurent, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Au chapitre 8, l'évangéliste Philippe apporta l'évangile au peuple de la Samarie, y compris aux magiciens du nom de Simon. Les versets 12 et 13 disent « Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Plus loin dans le même chapitre, Philippe, envoyé à la rencontre d'un homme éthiopien qui rentrait dans son pays, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque, c'est-à-dire l'Éthiopien, dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Acte 8, versets 35 à 38. En acte 16, versets 14 et 15, nous avons Lydie, la marchande de pourpre, qui fut baptisée dès qu'elle entendit et accepta la bonne nouvelle. Et plus tard, dans le même chapitre, le geôlier de prison dans la ville de Philippe, à qui Paul et Barnabas annoncèrent la parole du Seigneur, et qui, à cette heure même de la nuit, aussitôt fut baptisé, lui et tous les siens. Acte 16, verset 34. Paul arrive à la ville de Corinthe, où, une fois de plus, il prêche l'Évangile. Acte 18, verset 8 dit que plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Pourquoi, dans chacun de ces exemples de conversion, les personnes qui croient à la parole sont-elles baptisées du même coup? La réponse évidente se voit dans la question qu'Ananias posa à Saul de Tarse, qui avait cru en Jésus après l'avoir rencontré sur la route de Damas. Ananias lui dit : Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, verset 16. En plus de tous ces exemples concrets, nous avons le langage dans les Épîtres qui montre qu'il n'existait pas dans l'Église primitive une catégorie de personnes croyantes mais non baptisées. Galates 3, versets 26 et 27, par exemple, dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il est évident que l'auteur ne s'adresse pas à deux groupes différents dans l'Église, ceux qui avaient la foi et ceux qui avaient revêtu Christ par le baptême. Ceux qui avaient cru étaient aussi ceux qui avaient été baptisés. On ne doit pas séparer la foi qui sauve et le baptême. C'est au moment de l'obéissance au commandement du Seigneur d'être baptisé que la foi devient efficace pour nous libérer du péché. Romains 6, versets 17 et 18 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Qu'est-ce qui avait marqué le début de leur obéissance à l'enseignement dans lequel ils avaient été instruits? C'est le baptême. Dire que le baptême est nécessaire au salut n'est pas nier le salut par la foi. Dans la Bible, le baptême n'est jamais mis en opposition à la vraie foi en Jésus-Christ. Le baptême n'est pas contre la foi. Il signifie la foi. C'est un acte qui est motivé par la foi, qui exprime la foi et qui rend la foi efficace pour nous sauver.
No!